16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Historiquement Vôtre, cette émission que vous êtes toujours plus nombreux à écouter, et c'est normal, plus ça va, plus on a du mal avec Stéphane à concevoir qu'on puisse ne pas écouter Historiquement Vôtre l'après-midi.
Bah oui, sinon on meurt.
Hein. Oui, enfin, peut-être pas jusque-là Stéphane, mais disons que c'est une très bonne émission, oui.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous, c'est vrai, j'exagère toujours, mais je suis heureux de vous retrouver pour deux heures d'histoire totalement décomplexé autour de trois personnages, bien sûr.
Aujourd'hui, trois personnages qui, comme vous, Stéphane, mènent une vie de château. Oui, une drôle de vie de château, même.
Ah oui, ça pour eux, vous avez raison. Hein. Si elle aura le Panthéon comme ultime demeure dans une poignée d'heures, ou en tout cas son nom au milieu de nombreux autres illustres, c'est dans un château, celui des Milandes en Dordogne, que Joséphine Baker a passé le plus clair de sa vie. Normal pour une reine du music hall dans les années folles et une reine engagée contre le racisme aussi. Puis je vous parle de celui qui aimait faire parler de lui, ça tombe bien, un roi qui a grandi dans un château aussi, un roi de la provoque surtout, l'écrivain et polémiste Jean Ederne Allier. Quant à vous Mathieu, vous nous brosserez le portrait à 99% vrai d'un châtelain plus contemporain, encore plus rock que les deux autres.
Ah oui Stéphane, on peut être une icône du rock, de la transgression et aimer les belles moulures. Mick Jagger est peut-être une pierre qui roule, mais une pierre de taille. Il a vécu le premier confinement dans son château, chez nous, en France. Je vous brosse son portrait qui, je l'espère, vous apportera entière satisfaction.
Eux, ils nous apportent toujours satisfaction. Avec nous, comme chaque jour, ce sont nos brillants chroniqueurs. Elle nous entraîne dans l'intimité des grandes de ce monde. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bonjour Clémentine.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et oui, et ce qu'on appelle le château en politique, c'est l'Élysée. Hein. Mais aucun de nos présidents n'a vraiment le sentiment de mener une vie de château, parce qu'ils ont pratiquement tous envisagé dès leur élection de changer de lieu, de déménager de l'Élysée. C'est vrai qu'entre les bureaux exigus, les lustres, les parquets, c'est pas forcément le lieu idéal où travailler l'Élysée, mais du coup, où aller? Eh bien, tous nos présidents se sont interrogés et je vais vous raconter ça.
Avec nous également David Castello-Lopez qui remonte aux origines d'une invention, de quelque chose qui fait partie de notre quotidien maintenant.
Oui, hier j'ai fait la banane qu'on mange et aujourd'hui je vais faire la banane qu'on porte. Ce petit sac qu'on met à la ceinture et qui a connu des fortunes très très fluctuantes entre son invention et maintenant. C'est-à-dire cool, pas cool, cool, pas cool, cool, pas cool.
Vous avez connu une époque où le sac c'était banane cool. A été cool.
Mais vous savez c'était... pas que c'est cool maintenant.
Ouais. C'est cool maintenant.
Ah oui. C'est-à-dire plus à rien, on voyage plus.
En plus, voilà.
Avec nous également Olivier Pouls qui remonte aux origines d'un plat, d'une recette, d'un produit aussi, en l'occurrence
produit
une boisson.
Qui se boit, peut-être pas encore tout à fait l'heure, mais après dîner, aurez-vous envie d'un petit cognac hein, pour vous aider à digérer.
Ça aussi, ça a connu des fortunes diverses.
Oui, exactement.
Mais là, la Chine nous en commande des flacons.
Alors, on exporte 90% de la production de cognac aujourd'hui. Il y a des pays dans lesquels le cognac est hyper tendance. C'est vrai que chez nous, ça s'est un petit peu ringardisé, entre guillemets, mais ça revient par d'autres biais, oui. Et notamment par la mixologie.
Et j'ai noté que la Chine nous commandait des flacons de cognac entiers.
C'est vrai
que c'est étonnant. Heureusement qu'ils ne prennent pas des demi-flacons. Ça, c'est un peu décevant de la part des Chinois.
Mais comment c'est il faut aller voir la ville de Cognac.
Il y a toujours du cognac dans la ville de Cognac.
Bien sûr.
Je pose la question.
Toutes les grandes maisons.
On ne peut pas faire du cognac en dehors que de la région de Cognac. On ne fait pas de cognac.
Ça peut s'étendre un peu.
Oui, mais c'est une région qui est délimitée. C'est une appellation d'origine protégée.
Exactement.
Enfin, les amis, la vie de château, c'est le thème de notre émission. C'est bien beau, mais ça ramollit. La preuve avec Born to be Alive, ce quiz historique dans lequel les victoires de Stéphane se font aussi rares que ses séjours à Paris. Lui qui, comme notre personnage, s'est retiré dans son domaine du perche. Ça sera vers 5h moins le quart, mais tout de suite, découvrons notre premier personnage du jeu.
Europe 1. 16h-18h. Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Elle avait deux amours, son pays et Paris.
J'ai deux amours.
Eh oui, c'est bien ce que je dis, mais elle est tombée amoureuse une troisième fois, pas d'une ville, mais d'un château, où elle a passé plus de 30 ans de sa vie. Stéphane Bern nous raconte celle qui a désormais le Panthéon comme nouvelle maison, la reine Joséphine Baker.
On n'imagine pas vraiment châtelaine Joséphine Baker, et pourtant, de 1937 à 1969, c'est bien là, dans le Périgord, au château des Milandes, dans la commune de Castelnau-la-Chapelle, qu'elle élève cette fameuse famille arc-en-ciel dont nous avions déjà parlé à ce micro, cette tribu d'enfants de toutes origines, adoptée avec son époux, le chef d'orchestre, Joe Bouillon. Joséphine Baker coule des jours heureux dans cette splendide bâtisse de la Renaissance qui domine la Dordogne depuis plus de 5 siècles, pleine de rires et d'enfants. Cette demeure qu'elle a au fil des ans entièrement réaménagée pour accueillir aussi ses amis et parfois tout le village, comme lorsqu'elle invite les enfants de Castelnau pour fêter Noël autour d'un immense sapin. Ce château, Joséphine Baker voulait en faire celui d'un conte de fées, un conte dont elle était la reine bienveillante. Et après tout, pourquoi pas ? Celle qui devient aujourd'hui la 6e femme à entrer au Panthéon était bel et bien une reine. Pas par la naissance, mais par cette vie hors du commun que la France célèbre aujourd'hui. Une reine, oui, et par 3 fois même. Reine de la Seine d'abord, et Dieu sait qu'elle s'est battue pour occuper cette place. Elle qui est née, Freda Joséphine MacDonald, bien loin des scènes parisiennes, voyant le jour en 1906 à Saint-Louis dans le Missouri. Elle qui ne sait pas qui est son père et qui a grandi comme elle pouvait, avec sa mère, son frère et ses 2 sœurs. Mais la petite Joséphine a le talent dans la peau. Elle danse, elle chante, elle transpire la joie de vivre. Et à 14 ans, elle est là pour saisir sa chance lorsqu'elle remplace une danseuse du ballet de Saint-Louis où elle travaille comme couturière. La suite est météorique. Après Saint-Louis, on la retrouve à Chicago. Après Chicago, c'est Broadway. Et à 18 ans, c'est le Graal. Voilà Joséphine de l'autre côté de l'Atlantique à Paris, au beau milieu des années folles.
C'est moi qui suis sa petite, son ananas, son ananas, son anamite. Je suis vive, je suis charmante, comme un petit oiseau qui chante. Il m'appelle sa petite bourgeoise.
Nous sommes en 1925, c'est l'époque de la Vénus noire, celle qui enflamme les planches en dansant le Charleston vêtu d'un simple pagne qui lui sert aussi à moquer les idées reçues de cette France des colonies qui certes ne pratique pas la ségrégation sur son sol comme aux États-Unis, mais qui ne recule guère devant les pires clichés raciaux. Du théâtre des Champs-Élysées, Joséphine Baker passe aux Folies Bergères, où son guépard apprivoisé provoque quelques frissons dans le public, à moitié terrorisé, à moitié fasciné par les danses de Joséphine Baker, par ce physique aussi élancé et fin qui émoustille les peintres cubistes. L'année suivante, c'est le Casino de Paris, ce tube absolu, J'ai 2 amours.
J'ai 2 amours, mon pays Paris.
Ce tube qui lui assure à jamais l'affection des Français. Ce coup de foudre, elle en reparlera plus tard dans un discours qu'elle prononce en 1954. Je savais ce jour brumeux, quand le paquebot a quitté le port de New York, que je trouverais le soleil à mon arrivée en France. Ici, je me sens libre et heureuse de vivre. Et au moment où l'on trouve le bonheur absolu et complet, on peut dire avec conviction, ceci est mon pays. Reine de la scène donc, reine de l'espionnage ensuite, lorsque les années sombres succèdent aux années folles. Naturalisée française en 1937, après son mariage éphémère avec l'industriel Jean Lyon, Joséphine Baker est approchée dès le début de la guerre par les services de contre-espionnage français. En 1939, elle se rend sur le front et chante pour les soldats pendant la drôle de guerre. À Paris, Baker multiplie les concerts, distribue de la nourriture et des vêtements à ceux qui n'ont rien. Après la défaite de 40, Joséphine n'hésite pas un instant et s'engage aux côtés de la France libre. Elle a le profil idéal. C'est une vedette qui passe sa vie à fréquenter des personnalités, des diplomates et des officiels. Alors à chaque tournée, à chaque gala, de Marrakech au Caire, de Beyrouth à Damas, Joséphine tend l'oreille, écoute et transmet à Londres les informations qu'elle parvient à capter. C'est courageux, risqué, rocambolesque aussi parfois, comme à Lisbonne quand elle cache dans son soutien-gorge un microfilm truffé de noms d'espions nazis. Celle qui rejoint aujourd'hui le Panthéon prend place parmi ses pères résistants comme Jean Moulin, René Cassin, Pierre Brossolette ou Germaine Tillon. Reine de la scène, reine de l'espionnage, Joséphine Baker a aussi été toute sa vie et de toute son âme une reine engagée contre ce racisme qu'elle connaissait bien. Elle, la petite fille née dans une Amérique où les Noirs n'avaient pas le droit d'étudier dans les mêmes écoles ou de boire au même robinet que les Blancs. Cette Amérique où l'on interdisait les parcs des enfants blancs aux chiens et aux personnes de couleur. Baker s'est engagée en France avec la Croix-Rouge, aux États-Unis aux côtés de Martin Luther King. Le 28 août 1963 à Washington, elle est à côté du pasteur devant le Lincoln Memorial quand il prononce son célèbre « I have a dream ». Et quand elle prend la parole ce jour-là, c'est dans son uniforme, celui de l'armée de l'air française, avec ses décorations, médaille de la résistance, croix de guerre, légion d'honneur, cette légion d'honneur qu'elle a reçue au château des Milandes, chez elle en 1961.
You are a united people.
Vous êtes un peuple uni, enfin. Car sans union, il ne peut y avoir de victoire. Je suis heureuse que dans ma patrie, la patrie dans laquelle je suis née, que j'aime et que je respecte, je suis heureuse de voir ce jour arriver.
Mais les contes de fées sont parfois cruels. Personne ne le sait encore, mais Joséphine Baker est sur le point de tout perdre, à commencer par son château. Locataire pendant 10 ans, Joséphine Baker a fini par acheter les Milan en 1947 avec son mari, le compositeur et chef d'orchestre Joe Bouillon. Le couple partageait une ambition, un rêve. Faire de cette demeure un refuge, un havre de paix, un lieu sûr où personne ne jugerait quiconque sur sa couleur de peau ou ses croyances. La famille a vécu des jours heureux pendant toutes ces années. Mais voilà, Joséphine Baker a vu trop grand et n'a jamais regardé à la dépense. Petit à petit, sans qu'elle ne s'en rende compte, elle y a englouti toute sa fortune, trompée par des indélicats qui profitent d'elle. Son divorce en 1957 n'aide pas, mais Joséphine s'acharne pour donner vie à ce village du monde dont elle rêve. En 1964, criblée de dettes, Baker annonce la vente du château qui repoussait de justesse, grâce à l'intervention de Brigitte Bardot, bouleversée par l'appel à l'aide de Joséphine. Le sursis est de courte durée. En 1968, les Milan sont vendus pour une misère. Lorsqu'elle revient de tournée, Joséphine Baker trouve porte close et finit par se barricader dans la cuisine. Mais le nouveau propriétaire l'a fait expulser du château dans des conditions particulièrement brutales. Ruinée, Joséphine Baker peut heureusement compter sur ses amis. Jean-Claude Brialy d'abord, qui l'abrite à Paris, puis la princesse Grace de Monaco, qui l'accueille plusieurs années sur le rocher. Battante, comme toujours elle l'a été, Joséphine Baker multiplie les galas à Paris, à Belgrade, à Londres ou à New York. À force de travail et d'acharnement, elle revient sur le devant de la scène plus aimée que jamais. En mars 1975, pour ses 50 ans de carrière, elle entame une série de spectacles à Bobino, où elle fait tous les soirs salle comble. Mais elle est épuisée. Le 9 avril, après 14 représentations, Joséphine Baker rentre dans son appartement parisien, où elle s'effondre soudain victime d'une attaque cérébrale. Transportée d'urgence à l'hôpital, la star ne sortira jamais du coma. Le 12 avril, à 68 ans, Joséphine Baker s'éteint. On enterre alors la première icône noire de la scène française au cimetière marin de Monaco, où son corps repose depuis. Et reposera d'ailleurs toujours, puisqu'au Panthéon, seul son nom sera présent sur un cénotaphe, un cercueil qui contient uniquement de la terre des quatre endroits symboliques où Joséphine Baker a passé le plus clair de sa vie, Saint-Louis, Paris, Monaco, et évidemment les Milandes et son château de Dordogne, où son souvenir, lui, est pour toujours bien présent.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler de Joséphine Baker, nous avons le plaisir d'accueillir la politiste Audrey Célestine. Bonjour Audrey.
Bonjour.
Bonjour Audrey Célestine, vous êtes maître de conférences en sociologie politique à l'Université de Lille et auteur de l'ouvrage « Des vies de combat, femmes noires libres » paru aux éditions L'Iconoclaste. Femmes noires libres, Joséphine Baker l'était. Parmi la soixantaine de combattantes de la fin de l'esclavage jusqu'à aujourd'hui dont vous dressez le portrait, Joséphine Baker est l'une des plus célèbres. Cette célébrité, entre guillemets, et l'engouement qu'elle a suscité, elle les a provoquée d'après vous, ou c'est arrivé ipso facto parce que elle était qui elle était?
Je pense que c'est un peu les deux. C'est-à-dire qu'elle est arrivée à Paris dans une période qui est une période un peu de vogue nègre, où on est un peu fasciné par les arts d'Afrique, par... Il y a toute une présence aussi noire à Paris dans l'entre-deux-guerres qui se fait plus présente. Il y a une vie intellectuelle, une vie artistique. Et je pense qu'elle bénéficie de ce contexte-là, mais elle y contribue très fortement de par son charisme et sa personnalité, puis la très forte impression qu'elle fait dès la première fois qu'elle se produit sur scène.
Vous dites dans votre livre que la première rencontre avec Joséphine Baker peut laisser un goût amer. Rencontre sur le papier, évidemment. Au fil de vos recherches, vous avez découvert qu'elle était plus complexe que vous ne le pensiez au départ?
Oui, c'est-à-dire que pour moi, il était incontournable d'avoir Joséphine Baker parmi les femmes dont je dressais un portrait. Pour autant, les danses un peu grotesques, les gestes désarticulés, la ceinture de banane ne sont pas forcément des modèles avec lesquels j'avais envie ni de grandir, ni que mes filles grandissent. Et c'est vrai que cette dimension que j'ai découverte grâce au travail d'historien, d'historienne, de cette femme qui finalement comprend bien quelque chose de la France de cette époque et joue un peu avec ses codes coloniaux, avec cet imaginaire colonial, mais qu'elle contribue aussi à produire, bah ça la rend en tout cas un peu plus complexe et avec un peu plus d'action. C'est pas juste quelqu'un qui va reprendre des clichés, c'est quelqu'un qui va aussi s'en jouer. Ça la rend du coup plus intéressante, à mon sens.
Mais justement, sur la France de cette époque, Joséphine Baker, elle a très vite pris conscience du racisme qu'elle subissait, elle, mais aussi les autres femmes et les autres hommes noirs. Elle dira plus tard qu'elle s'est sentie libérée à Paris. Elle avait plus de liberté qu'elle n'en avait aux États-Unis.
Mais alors, cette période-là aux États-Unis, c'est une période de très forte violence raciste, c'est une période de lynchage, la ségrégation est extrêmement forte, et pour beaucoup de Noirs américains, Paris apparaît un peu comme un espace de liberté, mais il l'est d'autant plus qu'on n'est pas un sujet colonial français à la même période. Oui, on a l'exposition coloniale de 1931 avec des gens exposés dans Paris pour montrer la grandeur de l'Empire français. Mais il est vrai que pour un certain nombre de personnes, c'est aussi un espace dans lequel on peut aller boire un café si on le veut. On peut finalement, où les espaces publics ne sont pas ségrégés, et ça fait effectivement dans la vie quotidienne des gens une différence.
Elle a beaucoup joué avec la provocation. On parlait justement de son pagne et de sa ceinture de banane, mais il y a aussi les animaux sauvages aussi.
Tout à fait. Enfin, une partie de la presse l'adule, mais une partie de la presse le nie. Enfin, elle est aussi, elle fait l'objet de critiques extrêmement
violentes,
racistes, animalisantes. Et puis elle, alors on la compare à un, parce qu'elle est effectivement très très élancée, et on va parfois la comparer à un singe. Et du coup, elle se balade avec un singe dans Paris. Donc c'est aussi jouer comme ça avec une image un peu exotique, et puis aussi essayer de renverser des stigmates et du racisme extrêmement virulent, dont elle fait également l'objet dans la presse française à l'époque.
Stéphane racontait que Joséphine Baker s'est battue pour devenir la reine de la scène dont on se souvient tous aujourd'hui. Comment vous expliquez ce qui devient vite de l'adulation de la part du public? C'est vraiment un phénomène étrange qui se passe quand même autour d'elle.
Il y a quelque chose de l'ordre de la fascination, et puis très rapidement quand même elle a une conscience du fait que son image peut devenir un produit. C'est un peu, on est quand même quasiment un siècle après la première fois qu'elle se produit sur scène à Paris, et on continue à s'échanger son image. C'est-à-dire qu'elle rapidement elle fait l'objet de lithographies, d'images, elle est très photographiée, et elle va se raconter beaucoup, et du coup cette mise en scène d'elle-même, elle en a tout à fait conscience. Donc je pense que c'est aussi une femme d'affaires au sens très très contemporain du terme. Et effectivement, la première star dont on s'échange et dont on consomme ainsi l'image avec son consentement.
Dans quelques minutes, c'est plus dans un château, mais carrément au Panthéon, que Joséphine Baker fera symboliquement, on l'a dit, son entrée. Ce symbole d'une femme noire libre, justement, il représente quoi pour vous ?
On en parle depuis tout à l'heure, c'est une personnalité assez incroyable, mais je pense que ces faits de résistance sont la première raison pour laquelle elle entre ainsi au Panthéon. Après, je pense qu'elle donne aussi à la France une image d'elle-même que la France aime bien avoir. C'est-à-dire qu'on aime beaucoup en France comparer le racisme virulent des États-Unis à une terre d'accueil, ce qu'elle a été en partie. Et je pense que dans une large mesure, Joséphine Baker, par sa propre trajectoire individuelle, elle représente un peu ça, et elle donne à voir du coup une image d'un pays, et elle l'a dit elle-même à plusieurs reprises, sur une interview de sa maman qui dit « Ah là là, mais c'est incroyable comme on a accueilli ma fille dans ce pays comme une reine », et elle va beaucoup le mobiliser aussi, et du coup voilà, je pense que c'est tout cela l'explique.
Donc pour vous, si elle entre au Panthéon, c'est davantage la résistante qu'on célèbre que la danseuse, clairement, c'est ça qui a fait la décision.
Alors je pense qu'effectivement la patrie lui est reconnaissante pour effectivement ses faits de résistance. Après, je pense que il y a quelque chose aussi de très malin au fait de la mettre elle au Panthéon. C'est qu'on est aussi dans une période de forte politisation, de repolitisation de l'antiracisme en France, et que finalement c'est une figure qui arrange aussi par le discours qu'elle peut véhiculer ou par l'image qu'elle peut donner, comme je le disais tout à l'heure, de la France. Mais c'est en tout cas une figure qui dépasse très largement les frontières de ce pays. C'est moi, je vois les réactions de certaines collègues américaines face à cette panthéonisation, et elles sont extrêmement émues. Elles sont extrêmement émues parce que elles représentent effectivement quelque chose de la lutte contre le racisme, avec une histoire qui, à mon sens, est un petit peu plus compliquée que voilà, une simple personne qui découvrirait juste la liberté, elle découvre autre chose, mais elle arrive à agir à partir de ça, et cette capacité d'agir pour une femme noire de son époque, ce n'est pas donné, que ce soit en France ou aux États-Unis. Et donc, il y a quelque chose d'unique dans son parcours qui est aussi, dans un sens, reconnu par cet acte important de la République.
Mais ça montre aussi l'attachement de la France à Joséphine Baker. Elle a fait don d'elle-même à la France aussi. Il y a quelque chose de sacrificiel, elle le dit d'ailleurs souvent.
Bah, quand je parlais de volonté politique, c'est qu'à un moment, il faut bien que cette décision-là soit certifiée par le pouvoir. Et que je pense malgré tout que ça s'inscrit quand même dans une forme de réponse à une manière dont se déploie l'antiracisme aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a aussi de ça. Et puis il y a aussi une reconnaissance, hein, je veux dire, c'est quelqu'un qui s'est aussi engagé contre l'antisémitisme.
Il faut rappeler d'ailleurs qu'elle avait épousé un juif parce que son mari, en 1937, qui s'appelait Lyon, Jacques Lyon, je crois, était juif. Et c'était déjà à l'époque, ça avait, parce qu'il a été victime des lois anti-juives. Donc ça, on l'oublie un petit peu.
Tout à fait. Et puis dans le fait même de constituer cette famille, comme elle disait, arc-en-ciel, il y a quelque chose aussi voilà, d'important, mais qui, je trouve, va aussi avec une version un peu idéalisée qu'on peut avoir de la France et qu'elle mobilise elle-même lorsqu'elle va, par exemple, aux États-Unis et qu'elle se retrouve, parce qu'elle était un peu hors de contrôle, hein, et qu'elle se retrouve à dire sur scène, à déclamer des choses sur la Révolution française, du coup avoir des discours beaucoup plus politiques que ne le voudraient les autorités françaises présentes aux États-Unis. Il y a quelque chose aussi de... Elle venait aussi avec tout un bagage et puis avec tout ce qu'elle avait pu recevoir dans ce pays-ci, qui lui avait malgré tout permis d'être célèbre, d'être résistante, qu'il avait décoré. Et ce sont des éléments qui sont importants. Moi, je trouve ça très fort qu'elle soit allée à la marche pour Washington.
Justement, en 1963, elle apprend là où Martin Luther King a prononcé son « Have a Dream ». Elle fait aussi un discours, d'ailleurs, elle se montre, ce qui est assez étonnant, elle se montre fière de son pays ce jour-là. Et on se souvient uniquement du discours de Martin Luther King, mais on oublie un petit peu, à tort d'ailleurs, que la venue de Joséphine Baker a marqué les esprits. Comment elle était perçue par la communauté afro-américaine?
Alors, elle était diversement perçue, à la fois parce que, effectivement, là-bas, il y a un mouvement pour les droits civiques qui date du début du XXe siècle, qui est quand même très structuré, qui a des stratégies très précises pour pouvoir faire avancer la cause. Et elle est c'est un peu un électron libre qui arrive, qui fait ses discours, qui va organiser une manifestation devant tel café parce qu'on a refusé de la servir, qui va un peu mobiliser tout le monde. Et donc, je pense qu'il y a à la fois une vraie admiration pour... C'est une vraie star internationale à ce moment-là. Donc, il y a à la fois une reconnaissance du fait qu'elle s'engage pour la cause. Elle défend des cas, mais alors, du coup, elle suit aucun script. Et je pense que ça, c'est aussi des choses qui peuvent mettre un peu à distance, parce qu'il y a une discipline, malgré tout, dans le mouvement, dans quel cas on va mettre en avant, qui on va défendre pour pouvoir accéder aux choses. Mais bon, le fait même qu'elle puisse prendre la parole à la marche pour Washington montre malgré tout qu'il y a une considération importante.
Mais elle a fait carrière en France, c'était une star immense en France, un rayonnement mondial, mais est-ce qu'elle a fait carrière aussi aux États-Unis? Est-ce qu'elle a tenté de repartir aux États-Unis, faire carrière?
Alors, elle a fait un retour assez bref après la Seconde Guerre mondiale, qui voilà, est un peu en demi-teinte. Elle termine sur des succès, mais à la fois elle est confrontée au racisme et aux discriminations, à la ségrégation du pays, alors même que c'est quand même une star incroyable de l'autre côté de l'Atlantique. Et puis voilà, elle trouve qu'il y a beaucoup de jalousie, que ça fonctionne pas bien, enfin il y a des choses qui ne marchent pas, et du coup c'est un peu un retour en demi-teinte, et elle repart, elle décide de repartir en France.
Quoi qu'il en soit, Joséphine Baker est célébrée aujourd'hui, plus encore aujourd'hui, en ce 30 novembre. Elle fait son entrée au Panthéon dans un peu plus d'une heure. Merci Audrey Célestine d'avoir évoqué avec nous Joséphine Baker, femme noire et libre. Toutes les autres, eh bien, elles sont nombreuses, sont à retrouver dans votre livre « Des vies de combat » paru aux éditions L'Iconoclaste. On aura évidemment l'occasion d'évoquer d'autres destins ici. Merci beaucoup. Et puis, si vous avez l'occasion, allez au Château des Milandes. Parce que c'est un magnifique musée.
Et que si on y va de votre part, on peut même visiter les caches des résistants. C'est ce que vous m'avez dit. Hein, vraiment, il faut vraiment insister.
À l'étage au-dessus des chambres des enfants. Non, c'est un lieu très émouvant, et comment elle a perdu son château. Les gens l'ont abandonné. Ce que les gens oublient, c'est que on l'a laissé ruiner. D'accord, elle n'était pas une grande femme d'affaires non plus, après son divorce. Mais elle a été ruinée. Il y a Brigitte Bardot qui a volé à son secours, Jean-Claude Brialy, puis surtout Grâce de Monaco qui a tout payé.
Et le propriétaire du château, c'est plus le vilain propriétaire qui l'a expulsé à l'époque.
Non, c'est une femme absolument charmante.
Vous rassurez.
Elle s'appelle Angélique, elle est merveilleuse. Attendez. La barre.
Merci à vous, en tout cas, Audrey Célestine, d'avoir été avec nous cet après-midi. Et si vous avez envie de découvrir Joséphine Baker avec vos enfants, on ne peut que vous conseiller d'écouter le podcast Les Voyages d'Amélia, avec un épisode qui lui est justement consacré sur sa vie pendant la Résistance. Stéphane, c'est à écouter sur Europe 1.fr et Deezer. Et dans un autre épisode, vous avez même Stéphane Bern qui incarne Louis XIV.
Et vous, Molière ?
Pour vous servir.
Ici Europe 1. 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Tous les jours des 16h, Historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires encore mieux gardées que les codes nucléaires à l'Élysée. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, c'est justement à l'Élysée que vous nous emmenez, à la rencontre de ces présidents qui ont presque tous voulu déménager de là.
En tout cas, les présidents de la Ve République, et dès le début de la Ve République, parce que le général de Gaulle, premier président de la Ve République, fut aussi le premier de nos 26 présidents à envisager sérieusement de ne pas s'installer au palais de l'Élysée. Il n'aimait pas cet édifice qu'il trouvait trop bourgeois, qui à son goût manquait de grandeur. L'Élysée, ça se trouve rue Saint-Honoré, c'est vraiment le quartier de la haute couture, des commerces de luxe, ça n'était pas pour plaire au général. Et puis surtout, il considérait, lui qui était extrêmement sensible à l'histoire de France, naturellement, que rien de grandiose ne s'y était jamais déroulé. Il disait, écrit-on l'histoire dans le 8e arrondissement ? Ben oui, parce que à l'Élysée, c'est la mort de Félix Faure, il qualifiait de palais de la main gauche, palais à femme, vraiment un édifice bourgeois manquant de grandeur à son goût. Donc très vite, très tôt, il a songé à quitter l'hôtel d'Evreux, mais pour aller où ?
À Vincennes, madame.
À Vincennes, vous avez raison, mais auparavant, tout à fait Stéphane, mais auparavant, il avait envisagé quand même de faire reconstruire le château de Saint-Cloud, ou même le château
des Tuileries,
reconstruire les Tuileries.
Il ne s'ennuyait pas, dis donc.
Oui, mais il existe d'ailleurs toujours une association pour la reconstruction.
Pour les deux, d'ailleurs,
pour Saint-Cloud et pour les Tuileries. Pour Saint-Cloud, je l'ignorais. Pour les Tuileries, il y a vraiment une association assez ancienne et active qui voudrait qu'on reconstruise la partie qui a brûlé pendant la commune. Il a envisagé aussi les Invalides, le Louvre, l'hôtel Biron, qui est le musée Rodin, Versailles, Fontainebleau, Rambouillet, Compiègne. Et Stéphane le disait à l'instant, le candidat le plus sérieux aux yeux du général de Gaulle, c'était le château de Vincennes. Et Vincennes, évidemment, c'est pas très pratique.
La ligne 1,
il aurait été très rapide.
Et l'éloignement, ça lui convenait. Il a écrit dans le fil de l'épée, l'autorité ne va pas sans prestige, ni le prestige sans éloignement. Il fait partie du prestige du président c'est d'ailleurs assez contraire à la tradition monarchique dans laquelle le roi appartient à ses sujets. Et si vous aviez un chapeau et une épée, vous pouviez aller le voir déjeuner à Versailles, alors qu'on ne peut pas en faire autant à l'Élysée. Il est vrai que ça serait compliqué. Il est vrai aussi qu'à Vincennes, il y avait quand même un fâcheux précédent, c'est l'exécution du duc d'Enghien. Donc se dire qu'un général qui était déjà par ses adversaires accusé d'avoir fait un coup d'État aille s'installer dans un château où un autre général, Bonaparte, avait fait exécuter le prétendant au trône de France, ça l'a affiché mal peut-être. Malraux lui avait donc suggéré le Trianon, résidence d'une reine et non pas d'une favorite.
Il y a vécu d'ailleurs, il y a fait des séjours. Il y a les appartements du général de Gaulle dans le Grand Trianon.
Et il en reste un peu, ils sont dans leur jus.
C'est le moins qu'on puisse dire, oui.
Bon, finalement, d'ailleurs, le Trianon, vous le savez, on l'a affecté aux autres étrangers de la République française. Alors, à la suite du général, Giscard d'Estaing avait beau critiquer l'Élysée, il disait ici, le décor vous colle à la peau, il fait partie intégrante de la fonction. S'il a envisagé de partir, c'était pour aller à l'école militaire, qui est aussi un édifice Louis XV. Donc, c'était un peu quitter du Louis XV pour du Louis XV. Il semblerait que Nicolas Sarkozy ait quand même envisagé et demandé un audit pour éventuellement s'installer à l'école militaire. Quant à François Mitterrand, premier président de la gauche de la Ve République, le jour même de son investiture, il a confié à Jacques Attali que son choix se porterait sur les Invalides. Et les Invalides, c'est l'absolutisme par excellence. C'est Louis XIV et Napoléon réunis. Et pour le premier président de gauche, ça aurait fait bizarre quand même. En plus, tous les ministères sont déjà dans le 7e, donc c'était rajouter du pouvoir sur le pouvoir. Et puis, le mot invalide quand même, comme centre du pouvoir, c'est quand même pas très
Je vois pas où on aurait mis les bureaux et les appartements. Parce qu'à part...
Il aurait fallu vider les collections.
Mais les collections du musée de l'armée.
Ouais. Bah, on aurait pu on aurait pu les envoyer ailleurs. En tout cas, sur l'aspect même du, ou alors c'est les invalides qu'on aurait envoyés ailleurs. L'hôpital qu'on aurait peut-être décentralisé ou mis au Val-de-Grâce qui maintenant est vide. Bon, enfin,
De toute façon, ça s'est pas fait.
Ça s'est pas fait. Il y avait quand même en 74, Mitterrand, avant son élection, avait déclaré vouloir installer la présidence de la République dans une tour de la Défense. Oh. Et le projet le plus fou est né dans l'esprit de l'architecte et candidat éphémère maire à la présidentielle en 2007, Roland Castro. Il avait proposé de construire un nouvel Élysée à Saint-Denis pour donner de l'élan à la banlieue. Bon, tout ça, ça ne s'est pas fait. Alors, faute de pouvoir quitter l'Élysée, il y a quand même des présidents qui y ont apporté certaines améliorations, et bien avant la Ve République. Par exemple, c'est Jules Grévy qui a fait mettre le téléphone. Alors, il y a eu le scandale des décorations, il y a eu toutes sortes de choses qui ont marqué son septennat, mais le téléphone, c'est lui. Sadi Carnot, qui était polytechnicien, ingénieur, il s'intéressait aux nouvelles technologies, c'est lui qui a fait éclairer la grande salle des fêtes, qui l'a fait aménager d'ailleurs à l'électricité. Lebrun a installé le chauffage central et c'est lui qui a fait creuser un souterrain pour protéger le président des bombardements. Finalement, au total, le seul qui n'est pas envisagé de partir du tout, c'était Jacques Chirac. Lui, ça lui convenait, l'Élysée. Et ce qui frappe aussi, c'est que depuis des années, quand on voit les allocutions de nos présidents de la République à la télé, on constate qu'ils essaient un peu de gommer le côté lambris, vieillot, bibliothèque. Alors qu'avant, sur les photographies présidentielles, on voyait le président devant la bibliothèque. Le général de Gaulle pose devant la bibliothèque, notamment. Maintenant, on essaie d'effacer ça. On voit une fenêtre derrière, un drapeau européen, drapeau français, puis on parce que ça fait vieillot, ça fait un peu désuet. Et finalement, nos présidents de la République, faute d'avoir déménagé, ils sont allés satisfaire ailleurs leurs ambitions bâtisseuses, et notamment Mitterrand, qui a fait édifier la pyramide du Louvre. Et je ne sais pas si vous le savez, mais la pyramide du Louvre a exactement l'inclinaison de celle de Khéops. Donc on dit que nos présidents de la République sont des monarques présidentiels. En fait, ce sont plutôt des pharaons. Eh oui,
Merci Clémentine. Des pharaons
républicains.
Mais là, attendez, pour le commun des mortels comme moi qui n'ai jamais mis les pieds à l'Élysée, c'est pas terrible l'Élysée, on n'a pas envie d'y rester. C'est quand même un super hôtel particulier,
c'est petit.
Non,
c'est, d'abord, c'est tout petit.
C'est trop petit.
Et ensuite, il n'y a pas de place pour les bureaux. En fait, ils sont dans les combles.
Ah, d'accord. Il n'y a pas de grands bureaux, on imagine, des grands bureaux.
Celui du président.
Celui du président, c'est tout.
Ça n'a pas du tout été pensé pour ça.
C'est une résidence de.
D'accord, je ne savais pas qu'il n'y avait pas du tout de bureaux. D'accord, très bien. En tout cas, vous restez avec nous. Un seul de vous deux finira au Panthéon. Lequel ? Le quiz dans un instant.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Et si vous nous rejoignez, vous tombez bien, c'est l'heure du choc des cerveaux. D'un côté, Clémentine Portier-Kaltenbach, arrière-petite-fille de Napoléon, ou presque. De l'autre, Stéphane Bern, le Bruce Lee sous Prozac.
What a
Jouons à Bern to be alive. Stéphane, en garde. Je ne sais pas quand commence l'histoire pour vous, Stéphane, mais force est d'admettre que pour beaucoup, l'Éthiopie est le berceau de l'humanité. On y a trouvé des traces d'hominidés il y a 3 ou 4 millions d'années. Voici ma question. Depuis 1991, le pays ne participe plus aux JO d'hiver. Vrai ou faux ? L'Éthiopie. Vous êtes férus des JO d'hiver, vous ne manquez jamais une édition, je le sais. Est-ce que vous vous souvenez d'une victoire en ski éthiopienne ?
Non, ils ont surtout un problème avec l'Érythrée donc, et les tigres. Donc, en ce moment, c'est la révolution, quoi, vous savez.
Je le sais, et c'est une bonne remarque.
Donc, peut-être qu'ils n'y vont pas parce qu'il n'y a pas de neige en Éthiopie, mais simplement...
Ou peut-être, mais je vous laisse répondre. Alors, est-ce que depuis 1991, l'Éthiopie ne participe plus aux JO d'hiver, vrai ou faux ?
Peut-être doué en hockey, Non, à cause de la révolution, à cause des troubles, peut-être qu'ils n'y vont plus. Oui.
Vous répondez ?
Non, oui, ils vont plus.
C'est vrai.
Oui.
Vous avez perdu.
Non, c'est faux, c'est n'importe quoi cette histoire. Il y a eu un participant éthiopien en ski de fond pour les JO d'hiver de 2010. L'intérêt de cette question était dans ce que vous avez vous-même abordé. Depuis 1991, il n'y a plus de marine éthiopienne pour cause le pays n'a plus de côte donnant sur la mer avec l'indépendance de l'Érythrée. Vous étiez sur la bonne voie, je vous ai guidé jusqu'au bout, mais vous n'avez pas écouté. pas de points pour
c'est
vous.
C'est de ma faute maintenant.
C'est votre faute, Stéphane. Question numéro 2 pour vous, Clément. Loop est une société néerlandaise. Loop, L-O-O-P. Elle est à connaître pour tous les passionnés d'histoire. Moyennant une certaine somme, elle vous fait livrer chez vous une peinture grandeur nature d'un de vos ancêtres, comme si elle avait été peinte avant le 19e siècle. Vrai ou faux?
Ah, alors ça, j'ai vu ça sur les réseaux. Je trouve ça très, très marrant. Oui, c'est une boîte qui vous envoyez une photo et on vous représente à façon Velasquez ou Hyacinthe Rigaud en roi de France. Bon, on vous a pas déjà offert ça, Stéphane?
Non.
J'y ai pensé parce que je me suis dit, je verrais bien Stéphane à Hyacinthe Rigaud, mais je me suis dit qu'on avait déjà dû vous offrir ça 10 fois. Alors, je ne sais pas si c'est je ne sais pas, en revanche, si la boîte s'appelle Loop et si c'est une boîte hollandaise, je l'ignore, mais que ce soit la grande mode récemment de se faire représenter en baron, baronne, duc ou princesse, oui, ça je le crois volontiers, oui.
Donc vous répondez?
Je réponds vrai.
Elle répond vrai.
Vous avez perdu.
C'est parce que cette société existe.
Elle fabrique des gants de Michel, c'est ça?
Pas du tout. Non. La société Loop, avec cette société, vous pouvez acheter un cercueil 100% biodégradable. Grâce à Loop, vous allez pouvoir réaliser votre dernier rêve. Vous transformer en compost humain. Tapissé de mousse, ce cercueil convertira vos toxines en nutriments favorables à la biodiversité. Si vous appelez et que vous dites le code Stéphane Bern, 20% d'humus supplémentaire vous seront offerts. Question numéro 3 pour vous, Stéphane.
C'est
vous
vrai?
Êtes,
non,
vous êtes c'est zéro. Vrai. C'est tout est
vous
vrai.
Vous avez négocié
mais
des 25%.
J'ai négocié pour vous. Question
je vais
numéro
appeler,
3.
Je vais appeler tout de suite. Bonjour, c'est Stéphane Bern. J'aimerais un peu plus du mousse.
Du mousse, hein, c'est pas du mousse. C'est pas le mousse qui est
offert. Et comme ça, vous nourrirez vos poules. Ça ah, c'est beau.
Il n'y a pas du houmous. C'est de l'humus.
Allô, j'aimerais un peu plus de mousse. D'ailleurs, vous serez enterré où? Vous serez enterré, vous serez incinéré.
Ah bah, regardez, il a déjà son...
Vous avez déjà
mon tombeau.
Il a déjà son tombeau.
Vous avez la concession.
Oui,
ça,
oui.
À Tiron,
oui, c'est pas vous?
Eh bien, moi, figurez-vous que oui, mais vous ne voilà. Devinerez jamais où.
Saint-Tropez.
Le chic jusqu'au bout. Oui. Non, sur mon terrain, en Corse, mes grands-parents sont corses. On a un terrain, et voilà. Sur le terrain, il y a un tombeau familial qui est là,
formidable.
Avec une très belle vue sur la mer. Alors,
ça, c'est pas mal. Profitez-en de votre vivant.
Oui. Question
quitte
numéro
3. Quitte à mourir, oui, comme si on avait le choix.
Londres, 1810. Un chirurgien constate que la vieille dame qu'on lui avait amenée était bien une personne ayant des organes mâles parfaitement formés. La vieille dame était le chevalier Déon. Et le
chirurgien... Elle est pour moi, cette question-là. Vous regardez Stéphane, non?
Elle est pour Stéphane, cette question. Bah. Elle est pour Stéphane. Vous venez de vous planter sur la question Loop. Ne m'interrogez pas dans la question.
Ah, pardon, c'est comme c'est lui qui répondait sur son cercueil.
Heureusement, Stéphane connaît bien le chevalier Déon. Le chirurgien s'appelait Copland et ce monsieur était l'ancêtre de Stewart Copland, le batteur du groupe Police dans lequel chantait Sting. Vrai ou faux?
Alors, on a retenu l'histoire de l'autopsie du chevalier Déon, qui est né à Tonnerre d'ailleurs. Mais on n'a pas retenu le nom du chirurgien ni de ses descendants. Donc là, je navigue à vue, si vous voulez.
Comme souvent dans ce quiz.
Oui. Ça serait quand même un hasard incroyable que ce soit ça.
Je vous laisse répondre à cette question. Est-ce vrai ou faux?
C'est faux.
Vous avez...
Et c'est une bonne réponse, Stéphane. C'était juste pour le plaisir d'écouter du Police. Question numéro 4 pour vous, Clémentine.
Aucun lien.
C'est juste, c'est le même nom. Voilà. Question numéro 4 pour vous, Clémentine. La maîtrise du feu se situe il y a, ne chipotons pas, 450 000 ans. En Europe, les traces de feu les plus anciennes ont été identifiées à Nice, il y a 350 000 ans. Voici ma question. Le feu n'a pas d'ombre. Vrai ou faux?
C'est faux.
Mon conseil, réfléchissez bien.
Ah, parce que vous voulez qu'on fasse la dernière question. Si vous faites un feu dans une grotte...
Le feu a-t-il une ombre?
Si on fait une flambée dans une grotte, les flammes se reflètent sur la paroi de la grotte, me semble-t-il, dans la lueur de...
Stéphane, d'après vous, le feu, quand vous faites dans la grande cheminée monumentale, regardez un grand feu.
Ah bah non, là non. Dans une cheminée, où voulez-vous que l'ombre aille se porter? Alors que dans une grotte, me semble-t-il, les... Bon, de toute façon, vous voulez qu'on fasse la dernière question?
Non, je ne veux rien, je ne veux pas vous influencer. Vous répondez ce qui vous semble être logique. Et d'après vous, le feu a une ombre?
Oui.
Donc vous répondez, c'est faux?
Oui.
Vous avez... encore perdu.
Le feu n'est pas une matière, mais une réaction chimique. Il y a donc absence de matière, même s'il y a combustion de matière, donc pas d'ombre. Vive l'histoire, vous pouvez faire l'expérience chez vous.
C'est la fumée qui fait de...
C'est
qui
la,
fait
fumée.
La fumée. La fumée a de l'ombre, mais pas la flamme.
Avec la flamme. Alors ça, c'est incroyable. Quand même. Ah oui. C'est la première fois que j'apprends quelque chose de vraiment étonnant, en dehors de l'histoire, dans ce quiz. Parce que là, on est dans la chimie, presque. C'est une victoire.
Bravo.
Sidérante. De Stéphane Bern.
Oh, sidérante.
Oh oui, oui. Oh, oui, bon, écoutez. Écoutez, oui. Il aura droit à son supplément houmous. Bravo, Stéphane.
16h, 18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement vôtre, l'émission qui chaque après-midi vous raconte l'histoire sans se la raconter. Nous en tout cas, parce que nos personnages, Mathieu, eux, et ben, ils menaient quand même la vie de château.
Oui Stéphane, une drôle de vie de château, même puisqu'après Joséphine Baker et sa tribu arc-en-ciel au château de Milan, vous nous parlez de Jean Edernally, un écrivain provoque star des années 80, qui lui non plus ne vivait pas en HLM.
Oh certes non Mathieu, c'est dans un château qu'il a grandi avant de devenir, comme la presse l'avait surnommé, le révolutionnaire en Ferrari, mais aussi un écrivain parfois incompris. Bon, faut dire, il l'a un peu cherché. Quant à vous, vous nous brosserez le portrait du célèbre propriétaire du château de la Fourchette.
Oui, je ne sais pas s'il se visite, mais si c'est le cas, faites attention à ne pas glisser sur une trace de poudre, puisque c'est le château de Mick Jagger. Le célèbre rocker est tombé amoureux de la Touraine en 1980. C'est là qu'il a passé le premier confinement. Il a fait pas mal de travaux, mais je vous rassure Stéphane, il n'a pas tout peint en noir.
Heureusement. Sans oublier nos chroniques, qui et nos chroniqueurs aussi, qui voient la vie en couleur, surtout quand ils ont un peu bu. Avec nous, David Castel-Lopez qui nous raconte les origines, non pas de la banane, ça c'est déjà fait.
C'est fait.
Du sac banane.
Oui, du sac banane, exactement.
Dans lequel on peut mettre une banane.
Exactement. Oui. Exactement. Bah, oui. On a une sorte de mise en abîme. Incroyable. Tout à fait, je vous raconterai l'histoire de la banane et surtout l'histoire de son voyage entre le cool et le pas cool, qui est un voyage assez rigolo et incompréhensible.
Avec nous, Olivier Pouls qui va nous faire déguster...
dans votre banane, vous pourrez glisser un petit flacon de cognac, par exemple, ça pourrait être pas mal. Je vais vous raconter l'histoire de cette eau de vie, évidemment, née autour de cognac, mais qu'on ne doit pas à des Français, figurez-vous.
Qu'enfin, c'est
justement... c'est un Hollandais.
Stéphane, ne le dites pas, Stéphane.
Si, je sais.
Mais oui, mais vous le savez, mais gardez-le pour vous. C'est au moment du quiz qu'il faut donner les bonnes réponses. Bon, dehors.
Ah bon, enfin, je suis enfin de comprendre cette émission.
Ivre de cognac et de haine que nous nous jetterons dans l'ultime combat de cette émission. La lutte finale, le quiz fratricide qui nous oppose chaque jour vers 6h moins le quart. Mais pour l'heure, découvrons notre deuxième personnage du jour.
Europe 1.
16h, 18h.
Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
S'ils sont trop nombreux aujourd'hui, à son époque, ils étaient presque le seul à parler plus fort que les autres sur les plateaux télé. Le discret Stéphane Bern nous raconte le roi de la provoque, l'écrivain et polémiste qui menait une drôle de vie de château, Jean Edernally.
Raconter la vie de Jean Edernally, c'est raconter l'existence d'un homme qui ne vivait que pour la polémique et les scandales. Ce roi de la provocation aurait pourtant pu commencer plus mal dans l'existence. Il naît en 1936 dans une famille de militaires plutôt aisée, suffisamment en tout cas pour que Jean Edernally passe son enfance entre Paris et les terres de ses ancêtres en Bretagne. La famille s'y retrouve pour les vacances, pas très loin de Quimper, dans le château qui s'élève au milieu du domaine de la Boissière. C'est sans doute là, dans une des pièces de ce grand manoir dont les premières fondations remontent au XVe siècle, que le jeune homme a écrit quelques-uns de ses premiers textes. Car Jean Edernally s'est toujours voulu écrivain avec, très jeune déjà, le goût de la poudre et de la violence. Jean Edernally se voit en guerrier des lettres et son talent émerge dès qu'il publie ses premiers textes dans la lignée du nouveau roman. D'abord, Les aventures d'une jeune fille en 1963, puis Le grand écrivain en 1967. Deux livres qui ne lui permettent pourtant pas d'obtenir la reconnaissance qu'il pense mériter. Il se fait aussi éditeur, participe à l'aventure de la revue littéraire telle qu'elle avec un autre écrivain à la plume vive, Philippe Solers. Il lance sa propre maison d'édition où accueille chez lui, dans son appartement de la place des Vosges, l'une des premières radios pirates de France. Radio verte, au ton moqueur, libertaire et déjà écologiste. Jean Edernally est riche, très riche même depuis son premier mariage, ce qui ne l'empêche pas de militer à gauche. Provocateur en diable, il joue les révolutionnaires maoïstes en Ferrari en mai 68 et commence déjà à se faire remarquer avec des coups plus ou moins fumeux, comme lorsqu'il lance en 1970 le prix Anti-Goncourt pour protester contre ce qu'il appelle la mafia des grandes maisons d'édition. Vexé de ne pas obtenir de récompense littéraire, il multiplie les actions d'éclat plus ou moins drôles et les happenings plus ou moins graves qui vont de l'attentat au ketchup contre l'écrivain Michel Tournier jusqu'aux petites bombes incendiaires qu'il dépose sur le palier de certains jurés du Goncourt. Le problème de la provocation, c'est qu'on finit par y prendre goût. Peut-être par amertume de voir filer entre ses doigts le destin de grand auteur qu'il s'était imaginé, Jean Édernalier multiplie les esclandres. Parfois, cela relève presque de la farce, comme lorsqu'il s'amuse à tirer sur les pigeons de Paris au 11-43 depuis son balcon. Mais ses violences verbales atteignent aussi des records quand il décide de faire entendre sa voix en politique et consacre les 4 minutes 17 de son clip de campagne pour les élections européennes de 79 à insulter des journalistes et des hommes politiques. Sans succès, sa liste finira avec 337 voix. Mais la véritable fracture date de 1981 et l'élection de François Mitterrand. Entre les deux hommes, tout avait pourtant commencé par une forme de respect mutuel. Le dirigeant socialiste avait de l'admiration pour le talent de Jean Édernalier et l'écrivain appréciait la culture littéraire de celui qui deviendra président. Dans le match entre Mitterrand et Giscard d'Estaing, Jean Édernalier avait choisi son camp en attaquant violemment le président sortant dans un livre dont le titre dit tout « Lettre ouverte au Colin froid ». Mais très vite, après la victoire socialiste de 81, l'écrivain déchante. Déjà déçu de ne pas avoir été l'artiste officiel du Parti Socialiste, lui qui espérait une récompense, comme la direction d'une chaîne de télévision ou la direction de la Villa Médicis, ne voit rien venir. Amer, Jean Édernalier va de plus en plus loin dans les années 80, à coups d'esbrouf et de scandale. Lui qui clame à longueur de temps sa formule fétiche, malheur à celui par qui le scandale n'arrive pas, jouit de l'indignation qu'il provoque. C'est parfois potache, comme quand il s'amuse à dédicacer toutes ses amendes à Jacques Attali, le conseiller spécial de François Mitterrand. Mais ça l'est parfois moins. En 1982, Jean Édernalier surpasse en commençant par simuler son propre enlèvement en plein Paris. 3 mois plus tard, il fait plastiquer l'appartement du philosophe Régis Debray. Parfois, ses outrances vont jusqu'à l'abject, comme lorsqu'il accuse l'écrivain François Chalais d'avoir dénoncé des juifs pendant l'occupation au beau milieu des journées mondiales du livre à Nice qui se termine en présence de Philippe Bouvard qui anime le débat par un échange de coups de poing entre les deux hommes. Mais c'est presque une broutille pour cet homme qui a besoin d'ennemis comme un poisson a besoin d'eau. Sa vendetta contre François Mitterrand passe au cran supérieur dans les années 80. Jean Édernalier connaît l'un des secrets les mieux gardés du président. L'existence de Mazarine, sa fille cachée, dont l'existence ne sera rendue publique qu'en 1994. Jean Édernalier menace même de publier un brûlot, un livre baptisé « L'honneur perdu de François Mitterrand », un pamphlet qui est, selon ses mots de la haute littérature, n'hésitant pas à se comparer à Chateaubriand, Soljenitsyn ou Victor Hugo. Le livre mélange pêle-mêle toute une série de révélations sur le passé du président. L'affaire prend des proportions invraisemblables. Dès 1982, c'est pour lui qu'on met en place la fameuse cellule des écoutes de l'Élysée, créée pour protéger François Mitterrand de ce que le président considère comme une tentative de chantage. Constamment freinée, la publication du pamphlet n'aura finalement lieu qu'en 1996, à une date où les secrets du président sont déjà bien connus. Mais ce n'est pourtant pas ce combat-là qui va abattre Jean Édernalier. En 1984, il relance l'Idiot International, le journal satirique qu'il avait fondé en 1969. Parmi ses cibles préférées figure Bernard Tapie, que l'écrivain attaque à longueur de page et violemment en publiant notamment à plusieurs reprises son casier judiciaire. Mais le patron de l'OM ne se laisse pas faire. En 1991, Jean Édernalier est condamné à 850 000 francs de dommages et intérêts pour diffamation. L'Idiot International ne s'en remettra pas et Jean Édernalier non plus, presque ruiné dans l'affaire. L'écrivain continue à apparaître dans les médias comme invité, notamment dans les émissions Apostrophe de Bernard Pivot ou Droit de réponse de Michel Pollack, mais aussi comme animateur de 2 émissions littéraires, le Jean Éderns Club et À l'Est des Dernes, resté célèbre pour la manie qu'avait Jean Édernalier de jeter régulièrement les livres qu'il n'aimait pas par-dessus son épaule ou dans une poubelle. L'histoire s'arrête brusquement le 12 janvier 1997, du côté de Deauville. Au cours d'une balade à vélo, l'écrivain de 60 ans s'effondre, victime d'une crise cardiaque. Jean Édernalier repose depuis à Éderne, dans son Finistère natal, à quelques encablures seulement de ce château familial de La Boissière, seul véritable refuge d'un homme qui aura été en colère toute sa vie. Presque 25 ans plus tard, la demeure est toujours là, à l'abandon, abîmée par le temps, mais prête à renaître si un acheteur se décide à racheter ce que le polémiste avait un jour décrit comme un grand vaisseau de granit échoué parmi les herbes. Derrière les outrances, il y avait du style chez Jean Édernalier.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour essayer de décrypter Jean Edernallier, nous avons le plaisir d'accueillir un écrivain qu'il a bien connu puisqu'il a été son secrétaire particulier. Bonjour Anthony Palou.
Bonjour.
Bonjour Anthony Palou, vous êtes écrivain évidemment, vous avez été aussi le secrétaire particulier de Jean Edernallier dans les années 90. À cette époque-là, il ne vivait déjà plus dans un château, non ?
Oui, c'est ça. En 1990, il avait quitté la place des Vosges et voulait en fait quitter plus généralement Paris. Et, parce qu'il était harcelé par les huissiers, il était quasiment ruiné et il voulait se refaire une petite santé en Bretagne, donc dans son manoir La Boissière, qui était quasiment, faut bien le dire, en ruine.
En ruine.
Déjà en ruine. Et moi, je l'ai rencontré véritablement par hasard sur un parking, parce que le manoir se trouve exactement à 20 km au nord de Quimper, dans un village qui s'appelle Ederne, et je l'ai rencontré sur un parking de supermarché.
Et vous lui avez aussi consacré un livre, Allô, c'est Jean Ederne, Allié sur écoute, paru aux éditions Michel Lafond. Vous aussi, vous étiez sur écoute ?
Non. Enfin, je ne pense pas, en fait.
Non.
C'était une drôle d'histoire, cette histoire des écoutes. Pour la bonne raison que lorsque Jean Ederne Allié a commencé à écrire son pamphlet L'honneur perdu de François Mitterrand, oui. C'était en 1984. C'est un pamphlet qui a été refusé par 17 éditeurs quand même, et des éditeurs qui ont été non pas menacés mais pressés de ne pas le publier. Dans ce pamphlet, il y avait effectivement deux ou trois choses. C'était la Francisque,
oui.
Qu'il était le premier en fait. Mais tout le monde le savait en fait, mais lui, il était le premier à le révéler. Il y avait l'existence de Mazarine, sa fille naturelle, et puis il y avait son cancer. Et Mitterrand, donc, au courant de cette histoire, il a mis tout le monde sur écoute. Et c'était très facile avec Jean Edernallier, parce que Jean Edernallier téléphonait à tout le monde.
Oui.
Au tout Paris, c'est-à-dire dès 6h du matin. Il appelait tout le monde, et c'est-à-dire que lorsqu'il appelait par exemple la closerie des Lilas, qui était son QG, et tous les gens qui appelaient la closerie des Lilas étaient eux-mêmes écoutés.
Quel souvenir vous gardez de lui ? C'était un personnage, il pouvait être éminemment sympathique, et puis il était le roi de la provoque aussi.
Pour moi c'était un enfant, c'était quelqu'un de très très peu sûr de lui, et qui adorait faire des bonnes farces, en fait, et qui souvent a été pris la main dans le pot de confiture. Et donc, il se faisait taper dessus. Il dit, et puis, naïvement, comme un enfant, il disait, mais qu'est-ce que j'ai fait? Il avait besoin qu'on s'occupe de lui, comme un enfant. Et donc,
quand on dit mythomane, affabulateur, c'est des mots qui collent à Jean Edernallier, vous qui l'avez connu de près. Est-ce que vous diriez que on se trompe en disant ça, ou il y avait un peu de ça que j'ai lu?
Je pense que un créateur, un roman que lui, un romancier écrivain, parce que romancier, je le considère pas tellement comme un romancier, plutôt comme un écrivain, parce que bon. Je pense que dans tout écrivain, il y a une part de mythomanie. J'en suis persuadé. Regardez Malraux, déjà comme ça, Chateaubriand. D'ailleurs, c'est la lignée, hein. Il y aurait dans cette lignée-là. Je pense que tout créateur est un peu mythomane. Et lui, en plus, comme je disais, je reviens là-dessus, comme tous les enfants, on ment. Et on cultive ce côté un petit peu mythomane. Je suis le plus fort, je suis le plus grand, je vous emmerde. Quoi. Voilà.
Il était complètement fasciné par les puissants. Ces pamphlets, ça s'adresse toujours aux puissants. C'est parce qu'il était fasciné par eux, il voulait se mettre à leur égal. C'était quoi cette fascination qu'il avait?
Oui, parce qu'il était fasciné par le pouvoir. C'est pour ça qu'il a toujours cherché, d'ailleurs, à avoir une place, d'ailleurs, une place de pouvoir, un ministère ou quelque chose comme ça. Et oui, effectivement, et puis il considérait que c'était très amusant et très romanesque de s'intéresser à la vie privée de ces gens de pouvoir. Et puis, oui, ça l'amusait, quoi.
Et il se comparait aussi à Voltaire. Oui, il se voyait très, très, très haut. Vous qui êtes écrivain, vous le jugez comment d'un point de vue stylistique
Oui, il se voyait très, très haut. Malheureusement, je pense qu'à la fin, il se disait que... Non, il n'était pas Voltaire. Il s'est rêvé Voltaire, il s'est rêvé Chateaubriand, il s'est rêvé Victor Hugo. Bon, il est Jean Edernallier, il reste Jean Edernallier, ce qui est déjà pas mal. Mais je pense que le problème avec lui, c'est que on retient son nom. Moi, tous les gens me parlent, même des gens qui n'étaient pas nés à l'époque, me parlent de Jean Edernallier comme si c'était une marque, c'est-à-dire une marque de provocation.
Exactement. Oui.
Et c'est-à-dire que la télévision, si on regarde certains animateurs aujourd'hui, ils se sont complètement inspirés de Jean Edernallier. Or, mais Malheureusement,
on ne se souvient pas de ses écrits.
Non.
On se souvient de ses coups de gueule, ses provocations, etc.
Mais et là, il n'a pas eu de prix non plus. Hein. Il a été boudé toujours par les prix littéraires.
Mais oui, oui, personne ne lit ses livres aujourd'hui.
Puis personne, je ne sais même pas si on les trouve en librairie ou si, je ne sais pas, ils sont quasiment épuisés. Et ça, c'est bien dommage. Mais il faut le lire. Et si j'ai un conseil à.
Je pense
que ce serait le premier qui dort réveille l'autre, qui est un petit roman absolument admirable.
Rien que le titre est.
Oui, c'est souvent. C'est souvent ce qu'on se dit. Pendant notre émission. Merci beaucoup Anthony Palou de nous avoir raconté Jean Edernallier, dont vous avez été le proche collaborateur. Mais on peut aussi vous lire, justement, puisque je rappelle votre dernier livre, Dans ma rue, il y avait 3 boutiques parues aux éditions des Presses de la Cité qui viennent recevoir le prix Renaudot Essai. Merci beaucoup.
Merci à vous.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui, dans Historiquement vôtre, on évoque ces personnages qui mènent une drôle de vie de château. Après Joséphine Baker et Jean Edernallier, Mathieu, vous nous brossez le portrait à 99% vrai de Mick Jagger, le plus rock'n'roll des châtelains.
Alors, après vous, Stéphane, le plus rock'n'roll, après vous. J'ai eu la chance d'assister à un de vos bœufs à Tirongardet, ça décoiffe. Hein.
Le père du panloup au Parlement se conduisit comme un garde vivant et monta jusqu'à la tribune pour exhiber la
poutine. En deux, néanmoins, parmi les châtelains rock'n'roll, Mick Jagger se pose là, le leader des Stones qui, comme vous Stéphane, est féru de patrimoine et comme il a eu la chance d'être riche avant vous, il a pu acheter dès 1980 un sublime château en Touraine, le château de la Fourchette. Très joli château, donc 18e, qu'il a acquis pour la somme aujourd'hui dérisoire de 2 millions de francs, soit aujourd'hui le prix d'une place de parking à Paris.
Non.
Mais si Stéphane, même la niche de vos chiens coûtait plus cher, c'est écœurant. La propriété d'une vingtaine d'hectares est située sur la verdoyante commune de Possé-sur-Cis, en Indre-et-Loire. Je sais ce que vous dites Stéphane, 20 hectares, c'est petit joueur. J'espère que Mick n'est pas claustrophobe. Il survit. Il a d'ailleurs choisi son château Tourangeau pour se confiner en mars 2020. Quand il a acheté en 1980, il y a eu, vous vous en doutez dans la région, une certaine effervescence. Le seul rocker qui était passé par l'Indre-et-Loire avant, c'était Michel Delpech. La montée en gamme fut soudaine et frappante pour les Possé-sur-Cissois, si tant est que c'est comme ça qu'on les appelle. Mais finalement, l'installation de Mick n'a pas troublé la quiétude tourangeaute, simplement, ça a mis un peu de glamour dans le quotidien des gens, comme titrait dernièrement West France, je cite, « Dans ce village de Touraine, on peut croiser Mick Jagger au bricomarché. » Certainement en train d'acheter de la peinture noire. En fait, question, triviale poursuite camembert jaune, savez-vous qui était Stéphane, l'ancien propriétaire du château de la Fourchette ?
Non.
Non, vous en avez le duc de Choiseul, figurez-vous, ministre de Louis XV.
Je me sens de plus en
plus jaloux. Dans le village de 1600 âmes, on l'assure, malgré la notoriété mondiale de Mick, rien n'a changé. Christophe André, coiffeur visagiste, qui a eu l'élégance de ne pas rebaptiser son salon Rocker Cut pour surfer sur la vague Mick Jagger, il le dit sans détour, lorsqu'il est arrivé, on était inquiet, on avait peur de voir débarquer des groupies. On a été vite rassurés. Possé-sur-Cis n'est pas devenu un lieu de pèlerinage pour les fans des Stones. Et puis Mick Jagger est très sympa, très tranquille. Surtout, pour se mettre dans la poche les villageois, Mick a eu l'intelligence pour ses travaux de faire appel exclusivement aux entrepreneurs locaux. Je vous avais dit, Stéphane, que vous avez eu tort de faire appel à Bouygues. Mick Jagger s'intéresse aux gens, aux traditions, surtout culinaires. Christophe Galland, heureux propriétaire d'une épicerie fine dans le centre d'Amboise, village voisin, raconte « En plein mois d'août, il est entré dans mon magasin et m'a demandé dans un français parfait de lui expliquer la recette des rillettes fabriquées par mon frère. » Entre deux tartines de rillettes, Mick organise de petites fêtes dans son château, tire quelques feux d'artifice, entre autres, jardine, fait de la gymnastique et, j'ai lu ça, répare des moteurs de voitures. Alors, pourquoi l'Indre-et-Loire ? Eh bien, c'est sentimental. C'est là que Bambin, il venait passer ses vacances avec ses parents dans le camping planté juste en face du château d'Amboise. Mick Jagger naît en 1943 à Dartford en Angleterre d'un père professeur d'éducation physique et d'une maman coiffeuse. Très jeune, il se passionne pour le rhythm and blues, mais professionnellement, il se destine plutôt à devenir journaliste ou homme politique. Mick Jagger et Keith Richards naissent dans le même hôpital, entrent dans la même école maternelle, puis dans la même école primaire. Ils partagent leur brique de lait à la récré pendant des années avant de se perdre de vue et de se recroiser par hasard sur le quai d'une gare beaucoup plus tard. Keith tient alors un disque de Chuck Berry à la main, Mick Jagger un disque de Little Walter. Ils se regardent, se reconnaissent, se tombent dans les bras et décident de créer leur premier groupe, Little Boy Blue et The Blue Boys. Le succès n'est pas tout de suite au rendez-vous, mais en 62, le duo intègre Brian Jones et Ian Stewart pour fonder les Rolling Stones. Et là, ça va sacrément décoller puisque pour résumer 50 ans de carrière en une phrase, le groupe va bouleverser le monde du rock à tout jamais. Satisfaction, Paint It Black, Jumpin' Jack Flash, Sympathy for the Devil. Dites-le plutôt, ça sera plus joli.
Sympathy for the Devil.
Merci beaucoup mon assistant anglophone. Ce ne sont même plus des chansons, c'est tout simplement la bande originale de nos vies et celle de nos parents avant nous. Moi, à chaque fois que j'entends les Stones, j'ai envie de chialer. Paint It Black, même sur la ligne 12 entre Max Dormont et Marquet des Poissonniers. Par un groupe de Péruviens sans papier, et ben ça me fout les poils quand même. Ah, y a la musique des Stones bien sûr, mais aussi la personnalité magnétique, érotico-magnétique même de Mick Jagger, lèvres pulpeuses, pose provocante, physique androgyne, depuis toujours Mick pue le sexe comme on dit, et pour cause, et il ne s'en est jamais caché, Mick a trois passions, le rock,
les fesses et le zizi.
Oui, mais pas dans cet ordre-là. C'est clairement Stéphane le moment de ce portrait, je vous invite à boucher les oreilles, puisque nous allons parler de sexe, d'une altesse royale, et même hélas de sexe dans une altesse royale.
Déjà, ça fait mourir.
Mais non, parlons chiffres Stéphane. Marié deux fois, Mick aurait eu de son propre aveu quelques 4000 amants et maîtresses. J'ai fait plus de partout que de concerts, révélé Mick dernièrement, sachant qu'il a donné plus de 1000 concerts. Ça vous donne une idée du personnage. On n'a évidemment pas le temps ici d'évoquer toutes ces conquêtes. On citera donc seulement la plus choquante, son challenge le plus couillu, se taper la sœur d'Elisabeth II, Stéphane. La princesse Margaret. Elisabeth II, persuadée que Mick représentait pour sa sœur, je cite, une influence corruptrice, refusera d'assister des années plus tard, en 2003, à la cérémonie où le chanteur est fait chevalier pour un service rendu à la musique populaire. La reine prétendra être alors souffrante. Une aventure qui n'empêchera pas Mick de continuer à s'intéresser à la famille royale. D'après les rumeurs, le rocker aurait tenté ces dernières années de séduire Pippa Middleton, la petite sœur de Kate. Sans battre évidemment le record de l'acteur Warren Beatty, 12 000 conquêtes au compteur, paraît-il, Mick Jagger peut se vanter d'avoir séduit pêle-mêle Uma Thurman, Angelina Jolie, Jackie Onassis, Carla Bruni, Brigitte Bardot, mais aussi des hommes. Hey, il aurait même couché avec une autre star du rock.
Hugo Frey ?
Non Stéphane, non, David Bowie, le Hugo Frey anglais. Jamais rassasié, il aurait aussi fricoté avec Eric Clapton. Une de mes anecdotes préférées reste néanmoins celle que nous rapporte le magazine Gala en 2016, je cite, « Le jour où Mick Jagger a piqué la femme d'Igor Bogdanov ». Rien n'a de sens dans cette histoire. Je raconte. Lors d'une soirée arrosée organisée par Roman Polanski, déjà ça démarre bien, Igor surprend sa copine au lit avec Mick Jagger dans l'une des chambres. Bogdanov raconte la suite, plus que personne. Je tape sur l'épaule de Mick et je lui dis « This is my girlfriend !» Mick Jagger, désolé, se tourne vers moi et me lance en se rhabillant « Oh Igor, I'm so sorry, I didn't know !» Alors au total, de ces nombreuses relations naîtront 8 enfants. Ses amis ont bien tenté de lui dire à un moment de lever le pied avec de fines allusions comme « Oh tiens, Mick !»
C'est la journée mondiale de la vasectomie.
Mais non, Mick n'en a jamais fait qu'à sa tête. Semant aux 80, à 70 ans, il devient arrière-grand-père, ce qui ne l'empêche pas de continuer les tournées. Et ce qui est amusant, car au début de sa carrière, Mick Jagger avait dit souhaiter prendre sa retraite à 50 ans. Il avait même fait ce serment en 1975 dans People Magazine. Je cite « Plutôt être mort que chanter Satisfaction à 45 ans ». Vous voyez l'âge qu'il a aujourd'hui, comme quoi on en dit des conneries quand on est jeune.
C'est pour ça que vous enregistrez tout ce qu'on dit.
T'as imaginé que je ressorte ça
oui, dans quelques années.
Mais vous prenez pas d'engagement à long terme
non,
comme
jamais,
ça.
Non, jamais, jamais. Plus maintenant.
Non,
je suis plus jeune. Merci Mathieu, c'était superbe.
Il est très sympathique ce Mick Jagger. J'ai envie de le connaître, j'aimerais trop.
C'est vrai ?
Bah oui, il a l'air de. Il est comme ouais. Quelqu'un de fascinant, non ? Je sais pas. Il fait pas partie de vos
et
idoles.
Et c'est vrai, je connais en plus les gens qui travaillent pour son château.
Ah oui, ah oui.
Et les gens l'adorent là-bas.
Oui, il est très aimé.
Ouais, très aimé.
Oui. Et comme vous.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure de dire au revoir à nos étonnants châtelains.
Pour retrouver ceux qui connaîtront peut-être un jour, eux aussi, la vie de château.
Bon, lui, il a déjà l'alcool qui va avec. Ah, il oui. Manque juste le peignoir en satin. C'est Olivier Pouls.
Olivier, vous nous parlez du cognac aujourd'hui.
Oui, au coin de la cheminée, un petit verre de cognac que vous faites tourner dans la main comme ça, tranquillement, avec
un mal.
Et un plaid.
Un plaid et un labrador, il faut le chien.
Il faut le chien, mais vous l'avez le chien, vous.
Moi, j'en ai plusieurs, même.
Vous m'en prêterez un.
Toujours avec modération, enfin pas les chiens, le cognac. Les origines, d'abord nous remontons aux origines d'un objet du quotidien et fait le quotidien des gens stylés aujourd'hui, le sac banane avec vous, David.
Oui, tout à fait. Deux bananes dos à dos.
ça, c'est le titre.
C'est le titre de
ce jeu qui consiste à trouver des titres de films érotiques partout.
Tout à fait. Moi, je fais des efforts depuis quelques temps, mais je dois quand même dire que je continue à trouver que la mode, c'est un peu ridicule. Quand même. La mode, c'est quand même des règles arbitraires décidées le plus souvent de façon totalement unilatérale et dictatoriale par une poignée de gens dans des bureaux super chics qui décident que cette année, le bleu, c'est nul. Voyez. Mais pourquoi c'est nul le bleu? Je sais pas, c'est nul, c'est comme ça, ta gueule. Et oui, et aussi, par exemple, ces trucs, cette année, les cravates, elles doivent être moins larges que l'année dernière, sinon t'es con, voilà. C'est quand même des trucs complètement incompréhensibles. Et l'histoire de la banane, c'est un exemple
particulièrement représentatif de ces aléas de la mode, puisqu'en 30 ans, elle n'a pas arrêté de faire des allers-retours débiles entre les tréfonds de la ringardise et les sommets du hype. Ce qui donne envie de savoir, bien sûr, depuis d'où elle vient, depuis quand elle existe et d'où elle vient, cette banane. Bon, d'abord, je suis désolé, hein, mais Ötzi, l'homme de 5000 ans qu'on a retrouvé dans la glace, il avait une banane. Voilà, je sais que ça fait trois fois que j'en parle cette année de Ötzi, mais c'est comme ça. La banane d'Ötzi, donc cet homme du néolithique, c'était une petite banane dans laquelle il avait mis des petits outils dont on avait besoin au néolithique, genre un poinçon, un petit racloir, etc. Mais donc voilà, c'est un peu les origines du néolithique de la banane. Et ensuite, des sacs genre banane, c'est-à-dire des sacs qui s'accroche à la ceinture. Il y en a eu à peu près partout et à toutes les époques. Je donne un seul exemple, par exemple, le sporran chez les Écossais. C'est cette poche en cuir devant le kilt dans lequel, parce qu'on n'a pas de poche dans le kilt. Et donc, on peut mettre des petites choses dans son sporran qui est en fait tout à fait une banane. Mais bien sûr, ce qu'on a envie, nous, c'est de savoir d'où viennent les bananes d'aujourd'hui.
Oui, avec le clic, là.
Voilà, qu'on connaît tous et qui ressemble à ça. Et le clip, bien sûr, qu'on a ici, le clip, tu vois, qui se fait comme ça. Alors, d'où viennent ces bananes-là? Parce que, bien sûr, c'est celle-là qu'on a en tête. Alors, il y a une histoire qui est répétée souvent, c'est que la banane moderne, hein, celle-ci, elle aurait été inventée par une veuve australienne qui s'appelait Melba Stone, et qui se serait inspiré tout simplement des kangourous qui, eux, ont une banane génétique, vous voyez, intégrée à leur chair. Mais cette histoire est fausse, voilà. Alors, pourquoi tu nous la racontes?
Parce qu'elle est rigolote.
Eh ben, parce qu'elle est rigolote, et qu'en plus, j'étais un peu court sur la chronique, donc du coup, je me suis dit que j'allais l'intégrer. Non, la première trace moderne de la banane, c'est une publicité dans le magazine américain Sports Illustrated, en 1954, et cette pub, elle propose pour $10 un fanny pack. Fanny, c'est un mot d'argot qui veut dire quoi?
La chatte.
Alors,
pardon. Non, c'est pas ça. Pardon.
Il l'a dit de façon.
Excusez-moi, ça a fusé. Pardon. Non, je ne sais pas.
Donc oui, alors ça veut dire. Vous avez pas complètement tort parce qu'en Angleterre, ça veut effectivement dire. Alors moi, j'avais dit quelque chose de très intime, mais effectivement, allons-y maintenant. Ça veut dire la chatte en Angleterre.
Oh, je suis désolé. Hein.
Mais aux États-Unis, où là, le Sports Illustrated, c'était aux États-Unis, ça veut pas dire la chatte. Non. Ça veut dire les fesses. Et oui, parce que ça ne se porte pas sur la chatte, hein, ça se porte sur les fesses. Hein, voilà, donc c'est ça. Donc c'était un fanny pack.
Vous mettez la banane dans le dos, vous?
Mais même si on la met devant, elle est pas vraiment sur la chatte, si je peux.
Ah
me...
oui, oui, voilà. Oui, d'accord. Elle est
exactement.
Elle est
sur la chatte. Donc et plutôt donc aux États-Unis, fanny pack, donc sac de fesses, parce d'accord. que fanny veut dire fesses aux États-Unis. Et en revanche, en Angleterre, on ne parle pas de fanny pack, bien évidemment. On parle de bum bag, bum voulant dire fesses aussi, et également clochard aux États-Unis. Voilà. Et donc bum bag pour les fesses. Et donc, en 1954, cette pub-là, c'était pour une banane qui était faite pour faire du sport. C'était un truc qui était marketé pour les skieurs, pour mettre leur cire pour leur ski, etc. Et c'est pas anodin.
Et leur forfait pour monter.
Et leur forfait. Pour remonter exactement. Mécanique. Parce que qu'est-ce qui se passe au début des années 80 dans les sociétés occidentales? Eh bien, c'est le moment où, pour la première fois, les gens ont commencé à utiliser des vêtements et des accessoires de sport pour faire autre chose que du sport. Le moment où on a commencé à mettre des baskets juste pour sortir dans la rue, à mettre des jogging pour aller en soirée. Et c'est comme ça que, comme plein d'autres choses, la banane article de sport est devenue un article de mode tendance. Et dans les années 80 et début des années 90, les années de notre enfance, Mathieu, la banane, c'était un accessoire cool. Les New Kids on the Block, par exemple, un groupe cool s'il en est, ils avaient des bananes. Les personnages de la série Beverly Hills, hein, auxquels on voulait tous ressembler, ils avaient des bananes aussi. Et puis, assez brusquement, en quelques années, la banane est devenue l'accessoire le plus ringard de l'histoire de l'humanité. Probablement pour les mêmes raisons qui font que toutes les choses à la mode se démodent, parce qu'elles deviennent mainstream et bon marché. Et donc, elles commencent à être portées par des gens qui sont beaucoup plus bas dans l'échelle de la société. Et donc, ces choses-là, elles cessent d'être associées à un statut enviable. Et donc, l'élite les rejette. Exactement ce qui s'est passé avec la banane. Alors, il faut noter quand même qu'il y a une catégorie de personnes qui a beaucoup fait pour la survie de la banane dans ces années les plus difficiles. Ce sont les hipsters. Puisque le principe même de la mode hipster, c'est de porter des choses pas cool de façon ironique. Et donc, plus un article est ringard, plus il l'aime. Et donc, c'est comme ça qu'il y a beaucoup de hipsters qui ont porté des bananes. Mais vous savez quoi? Depuis quelques années, la banane, elle est revenue non pas ironiquement, mais pour de vrai. À partir de 2014, il y a des grands couturiers qui ont recommencé à proposer des bananes. Pourquoi? Eh bien, c'est dur à dire, mais probablement à cause des skateurs. Parce que dans les années 90, au moment où la banane n'était pas vraiment très cool, il y a des skateurs qui ont commencé à porter des bananes, mais au lieu de les porter comme on les porte traditionnellement, c'est-à-dire à la ceinture, soit devant, soit derrière, soit sur le fanny, soit sur le fanny, eh bien, ils ont commencé à les porter en bandoulière.
De
traviole comme ça. Et ils s'en servaient pour mettre leurs accessoires de skateurs. Et c'est probablement d'eux, donc, qu'est revenue cette renaissance de la banane. Renaissance qui se paye cher, puisqu'aujourd'hui, il y a des bananes de Gucci, par exemple, qui coûte jusqu'à 1000 euros la banane.
Ouh, voilà. La belle idée cadeau. Là.
Merci beaucoup, David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et sur le site europe1.fr.
Historiquement vôtre.
Le cognac dont nous allons parler maintenant remonterait à Dave.
Non.
C'est ce que vous avez dit en
J'ai dit
Stéphane.
Des bateliers Dave, hollandais, c'est vrai.
Excusez-moi, comme batelier hollandais, je ne connais que Dave. Voilà. C'est, Olivier Poulpe, racontez-nous l'histoire du cognac.
On va tout de suite trancher un débat. Le cognac vient évidemment de Cognac et de la ville de Cognac. Mais ce ne sont pas les cognacais eux-mêmes, ni les paysans autour qui produisaient du vin, qui ont inventé ce qui est aujourd'hui l'une des plus célèbres eaux-de-vie du monde. On doit l'invention du cognac eau-de-vie, comme vient le dire Stéphane, aux bateliers hollandais. Alors pourquoi ? Tout d'abord parce que la région de Cognac était connue depuis l'Antiquité pour produire du vin. Un vin de qualité assez moyenne d'ailleurs, beaucoup de vin blanc avec des degrés alcooliques assez faibles. Et les bateliers hollandais étaient traditionnellement des grands marchands. Ils se rendaient dans la région pour venir y acheter notamment du sel. Ils achetaient du sel, ils achetaient aussi du vin. Et ils se sont rendus compte que malheureusement, ce vin, il voyageait très mal. Surtout que pour remonter en Hollande, ça prenait un petit bout de temps. Et donc quand on arrivait en Hollande, le vin, il avait tourné, il avait plus bon goût. Et on pouvait en tout cas pas du tout le conserver. Et les Hollandais, ils maîtrisaient déjà à l'époque une technique très intéressant, mais que eux n'ont pas inventé, qui remonte à beaucoup plus loin, c'est la distillation. Ils se sont rendus compte qu'en distillant ce vin, on arrivait à le faire vieillir nettement mieux. Mais à l'époque, on ne maîtrisait qu'une distillation simple, ce qu'on appelle la simple distillation. On utilisait un alambic, hein, et puis ça permet par évaporation d'enlever une partie de l'eau et donc de renforcer le degré alcoolique du produit. Et alors, ça a donné naissance à ce qu'on appelait le brandwine. Et le brandwine, c'est le brandy, le vin brûlé, qui était un vin en fait un peu plus alcoolisé que le vin classique, mais pas encore aussi alcoolisé que le cognac, et pas aussi net et aussi pur dans ses arômes. Alors ça vient un peu plus tard, c'est le XVIIe siècle, avec l'apparition d'une nouvelle révolution qui, elle, est inventée dans la région, selon la légende, par le chevalier de la Croix-Marron, et c'est la double distillation.
Ah bah donc c'est cognac qui l'a inventé quand même.
Et donc évidemment, là naît réellement l'eau de vie telle que nous la connaissons, c'est-à-dire une eau de vie qui est distillée et qui sort de l'alambic à des degrés d'alcool très élevés, degrés d'alcool qui sont ensuite réduits, une bouteille de cognac autour de 42 degrés.
C'est déjà pas mal. Hein.
Ce qui est déjà pas mal. Et donc, on va maîtriser de mieux en mieux cette double distillation. Et on va se rendre compte aussi d'une chose, c'est que ce cognac, quand il voyage, on le met dans des fûts. Ces fûts de chêne, eh bien, ils mettent du temps à arriver là aussi à destination. Alors là, c'est plus qu'en Hollande, c'est aussi en Angleterre, etc. Et quand il est arrivé à destination, il est meilleur. Parce que, tout simplement, le fût lui a permis de vieillir, de prendre les arômes naturels qui sont contenus dans ces fûts. Et c'est donc à partir de ce moment-là qu'on va se mettre à faire vraiment du cognac tel qu'on le connaît, c'est-à-dire de la distillation de vin local. Aujourd'hui, c'est de l'uniblanc, le cépage. Un vin de qualité assez moyenne, s'il faut le boire comme ça. Il est distillé et il est ensuite vieilli dans des fûts de chêne. Et ce sont ces fûts de chêne qui vont donner véritablement la qualité, la typicité à ces cognacs. Au XVIIIe siècle vont naître les grandes maisons de négoce qu'on connaît, hein, Martel, Rémy Martin, Delamain, Hennessy, etc. Et puis, le cognac va connaître une expansion fulgurante en termes de volume de production, puisque en 1877, on a 282 000 hectares qui produisent du cognac. Malheureusement, la crise du phylloxéra va elle aussi passer par là, ramener le vignoble à 40 000 hectares. Et aujourd'hui, on est à peu près à 78 000 hectares. Il faut savoir que le cognac est exporté à 90%, notamment vers les États-Unis, vers la Chine, vers l'Angleterre. Il a connu aux États-Unis un boom incroyable lorsque les rappeurs se sont emparés du cognac. Et comme dirait David Castello-Lopez, c'était cool de boire du cognac avec des filles partiellement dénudées sur le capot d'une voiture de luxe. Alors ça a boosté complètement les ventes de cognac. qui ont un petit peu quitté l'idée du digestif, de l'image dont on parlait tout à l'heure dans son château au coin de la cheminée, pour devenir une boisson plus jeune, notamment utilisée en mixologie. On peut déterminer la qualité des cognacs à des mentions qui figurent sur les bouteilles.
Ça, c'est intéressant.
Voilà. Oui. Alors, vous avez la mention VS, sont les cognacs les plus jeunes, toujours un assemblage de plusieurs millésimes à cognac. Donc, VS, c'est minimum 2 ans, le vin le plus jeune à 2 ans. VSOP, 4 ans. XO, 6 ans. Mais on va beaucoup plus loin. En fait, quand vous achetez du XO, vous avez dedans des eaux de vie qui peuvent avoir 30, 40, 50 ans. En tout cas, la plus jeune...
C'est quoi le label pour les vieilles là? Si on veut faire un beau cadeau pour Noël.
Eh bien, c'est XO.
XO.
Mais XO, alors vous avez après des mentions
et puis après, vous avez les
très vieux, hors d'âge, etc.
Les flacons, le verre, etc. Quand j'étais en tournage à Cognac, je suis allé m'inscrire pour faire visiter des chais.
Il faut aller visiter, ça c'est fantastique.
Et visiter la distillation de chez Annecy, par exemple.
Et autant, il y a des...
Il y a des produits
qui vous intéressent modérément. On sent que le cognac,
Et la part des anges, c'est ce qui s'évapore chaque année.
Il faut qu'on s'arrête, malheureusement. On boira un cognac un autre jour. Merci beaucoup, Olivier. On retrouve toutes vos recettes sur le site europe1.fr.
Et pour terminer, qui va boire la tasse, mais sans cognac dedans? On va jouer avec l'histoire. C'est la lutte finale.
Europe 1, historiquement vôtre.
Bon, vous connaissez le principe de la lutte finale, hein, chacun une question, puis ensuite on départage en se rapprochant le plus près possible du chiffre que je vais vous demander. Alors Olivier, voici un petit conseil de lecture, souvenir de ma captivité en Allemagne à Parchim. Parchim était un camp de prisonniers dans le nord de l'Allemagne. Un soldat français a dessiné les scènes de vie de sa détention de 1914 à 1918. Quel était son nom ? Maxime Bourré, Maxime Torché ou Maxime Pompette?
Oh là là, la petite librairie. La toute petite librairie.
Bah, une chance sur trois. La roue tourne et elle s'arrête sur Maxime Pompette.
Raté. C'était Bourré. Le Maxime Bourré, évidemment.
Bon, pourquoi évidemment. Pas bah, tiens, évidemment.
Parce que on voit bien que les deux autres sont une sorte de dérivation.
Oui, mais justement, on pouvait penser que...
Il y avait un petit piège. Bourré, c'est plus commun. Ouais.
D'ailleurs, si vous voulez voir ses dessins, je vous recommande d'aller sur maxime-bourré.fr. Voilà.
Il y a bu du cognac ou...
C'est pas. Alors, David, si vous trouvez un trèfle à 4 feuilles, cela devrait vous porter chance. Cette superstition vient de notre chère reine Marie de Médicis. Vrai ou faux?
Là aussi, il n'y a que 2 choix. Alors moi, j'en avais 3.
C'est vrai. Mais c'est plus dur.
C'est plus dur parce que oui, là...
Là, faut le savoir ou pas. Ouais. J'ai envie de dire... c'est vrai. Oh non, c'était une autre reine.
C'est date de Ève.
Ah ouais?
Oui, la femme d'Adam.
Hein? Oui,
elle avait emporté un trèfle à 4 feuilles du jardin d'Éden pour se souvenir à tout jamais des délices qu'elle perdait en le quittant.
Oh.
Oui.
Il y a balle de match pour Mathieu Noël.
Ouais.
Alors, le premier film sur le Titanic est sorti 6 mois après le naufrage du vrai Titanic. Vrai ou faux?
6 mois, ça paraît vraiment très très court à l'époque pour faire un film, à moins que ce soit. Si c'est pas 6 mois, c'est 5 mois, ou c'est moi, comme j'ai aucun moyen de le savoir, je vais dire que c'est vrai.
Non, il est sorti 1 mois après.
Ah bah voilà, c'est ce que je vous ai dit quasiment.
Le tournage a duré 1 mois, la principale actrice était une vraie survivante du naufrage. Le film dure 10 minutes et il est sorti en mai 1912.
Ouais.
Par contre, les bandes du film ont disparu dans l'incendie d'un studio de cinéma de New Jersey.
Quoi, quand ça veut pas,
le titre « Saved from the Titanic ».
Ah mais c'était un docu-fiction, en fait, sur la personne qui avait... Oui.
Alors maintenant, partage. La réponse la plus proche remporte la lutte finale. Aujourd'hui, on est mardi, et autant le lundi, c'est ravioli, autant à l'Élysée, le mardi, c'est jour des pendules. Johanna Arvaux est l'horlogère officielle du palais de l'Élysée. Combien y a-t-il de pendules et d'horloges à remonter à l'Élysée?
Alors, je visualise, comme je connais bien, pièce par pièce.
Quand tu rentres à gauche, il y en a deux.
J'ai vu ma mur, c'est le bureau, il y a le bureau de Brigitte. Alors là, je dirais que...
Non, ils ne sont pas du tout au même étage. Vous voulez tout savoir.
Stéphane, tout à l'heure, vous m'avez donné un petit indice, alors j'espère que je vais gagner.
Oh bon. Alors, David, combien?
25.
25, vous?
42.
42, vous? 14. Il y en a 320.
Non.
Alors, qui est le plus proche de 320? C'est Olivier Pouls qui gagne.
320. Ah oui.
Belle victoire d'Olivier Pouls. Un nouveau numéro d'Historiquement Vôtre s'achève. Il était consacré, les amis, aujourd'hui à Détenant Châtelain. J'en connais un autre. Évidemment, comment ça se passe, Stéphane, dans le Perche? On dit que c'est très coûteux d'entretenir un vieux château. Mais il y a plein d'aides en
c'est
même temps.
C'est coûteux, mais il n'y a pas d'aide.
Comment ça, il n'y a pas d'aide?
Quand vous refusez les aides comme moi, il n'y a pas
c'est
d'aide.
C'est vrai, vous refusez les aides?
Bah, oui,
c'est
bien
très
sûr.
Noble de votre part.
Animateur de service public, je ne veux pas en plus demander des aides.
Ah, c'est beau, mais c'est bien de le savoir.
Ouais, non, c'est bien. C'est aides, tout sur ce que je gagne ici. D'ailleurs.
Oui, on va demander une petite rallonge. Oui. L'idée du programme de demain, Stéphane.
Oui, demain, comme moi parfois sur vous, ils ont toujours le point levé. C'est le point commun des trois personnages que l'on réunit. Les sprinteurs qui ont marqué les JO de Mexico en 1968. Tommy Smith et John Carlos. Puis celui qui a levé le point en sortant de prison et relevé l'Afrique du Sud juste après. Vous l'avez reconnu, l'ancien président Nelson Mandela.
Et pour puis, vous celle qui, en chanson, nous a soufflé sans le savoir le thème de notre émission, Amel Bint, qui a toujours le point levé. Alors à demain.
Ah, deux points même. Voilà, à demain, à deux points.
Vous êtes sûr de ça? À demain, Stéphane, à demain, les amis.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.